Il est minuit moins une.
Minuit moins une?
Oui, pour acheter tes billets pour le festival Vue sur la Relève qui fête sa 23e édition.
C'est quand?
Du 8 au 19 mai.
Oh, c'est où?
Au Monument National et au Ministère sur la rue Saint-Laurent. Il y aura même des spectacles extérieurs gratuits à la place des festivals.
On est minuit moins une théâtre et on participe à Vue sur la Relève, festival pluridisciplinaire présenté par Québecor.
On vous attend. Billets, vuesurlarelève.com.
Pool Hip-Hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
La carte Campus Quartier Latin, c'est des rabais instantanés dans 20 commerces participants. Viens chercher ta carte gratuite devant les locaux de choc.ca et économise partout sur ton campus étudiant, le Quartier Latin. Pour plus d'informations, rends-toi sur quartierlatin.ca dans la section « Privilèges étudiants ».
Les cornes, c'est ton rendez-vous au Metal Underground sur choc.ca. Branche-toi.
Tous les mardis à 20h au Théâtre Sainte-Catherine, c'est la soirée Art Machine. Venez découvrir le show le plus éclectique en ville. Humoristes, musiciens, clowns, artistes burlesques et autres what the fuck se partagent la scène du Théâtre Sainte-Catherine. Venez vivre avant de mourir. Le tout est accompagné du house band The Firing Squad. 10$ prix régulier, 7$ prix étudiant. Le Théâtre Sainte-Catherine est situé au 264 Sainte-Catherine-Est, à deux pas du métro Berry-UQAM. Les portes ouvrent à 19h30, show 20h.
Art Machine.
Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça.
C'est ça. Voilà.
Bonjour, bonjour, bienvenue à cet épisode numéro 169 de Pop en Stock. Mon nom est Mégane Bédard et bienvenue avec nous donc pour une belle émission, une belle tablée aujourd'hui. Et on va vous parler d'un sujet qui peut paraître assez large, assez... Vos micros sont ouverts de l'autre côté.
Oui, ça va, j'ai pas... Continue ton intro. Non, vas-y, continue.
Elle n'est pas toute seule.
Non, il y a des gens de l'autre côté de la fenêtre, de la console. Et pour parler, c'est ça, comme je disais, d'un sujet assez large et qui peut paraître très vaste. Donc, sans plus tarder, on va commencer à présenter les gens qui sont avec moi. À commencer par Alex, qui a fait sentir sa présence en tapant dans le micro.
Oui. Mais
donc, Alexandre Poirier.
Je suis un spécialiste des jeux de société, mais pas des micros, comme on peut le constater.
Non, on peut constater.
C'est ça.
Comment vas-tu, Alex?
Ça va.
Ça va. Okay.
Ça va. Je me suis mis dans le bain aujourd'hui. J'ai eu des questions palpitantes comme oui, mais est-ce que le Ouija et la Marelle méritent d'être étudiés? Et on n'en parlera pas aujourd'hui, malheureusement.
Mais bon. Probablement, mais peut-être pas par toi, parce que ton doctorat ne portera pas là-dessus.
Non. Mon doctorat, en fait, mon sujet de recherche pour l'instant va porter en fait sur la pratique du jeu de société et comment elle se compare par son expérience, en fait, par rapport aux jeux vidéo, mais aussi par rapport à sa matérialité qui est de plus en plus complexe, bon, justement avec les jeux hybrides qui utilisent des applications mobiles, dont le désastreux World of Yo-Ho, mais on en parlera à l'émission.
Donc, ta présence est tout désignée aujourd'hui.
Oui.
Et sans plus tarder, je vais passer à mon second invité qui est assis à ta gauche. Sylvain Trottier, bonjour.
Salut.
Bienvenue à Pop en Stock. Donc, c'est la première fois que tu nous rejoins ici.
Oui, ça fait plaisir. Merci pour l'invitation.
Et je vais te laisser te présenter, donc...
OK, ben plein de choses.
Que fais-tu dans la vie?
Je suis travailleur autonome dans le milieu du jeu. Donc, rapidement, je suis actif dans trois grandes branches. La première, c'est une branche animation. Donc, je fais des animations de jeux à un café qui s'appelle La Récréation, mais aussi dans des maisons de jeunes, des bibliothèques, des fêtes de quartier, n'importe quel endroit qui a envie de jeux, que ce soit jeux de société, mais aussi autre forme de jeux. On m'invite, je viens, je fais jouer les gens. Le deuxième volet, c'est un volet plus médiatique. Donc, je me suis occupé du guide Protégez-vous pendant plusieurs années. Probablement cette année encore, même s'il y a des changements de ce côté-là, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc on va passer par-dessus. Sinon, je fais des chroniques, notamment pour les débrouillards, j'ai fait de la radio, des trucs comme ça, j'ai fait différentes piges dans des médias. Toujours de jeu. Et le dernier volet, c'est le volet événementiel. Donc, j'organise des événements de jeu. J'ai lancé notamment le salon du jeu de Société de Montréal. Je me suis occupé de la salle de jeu à Tacouton, festival de jeu pour Sainte-Justine et plus récemment le Mega Game. Et je crois que c'est en partie pour ça qu'on m'a convié aujourd'hui, si je ne m'abuse.
Oui, on en reparlera un petit peu plus en détail.
Pour tout ça, finalement.
Oui, oui. C'est un peu tout ça. Parce que un CV très impressionnant.
Oui, c'est ça. Je suis allé vite aussi. Il y a encore deux, trois autres petites affaires, mais voilà.
Donc, merci beaucoup, Sylvain. Et un revenant, donc c'est sa deuxième fois à Bob en Stock, Sébastien Savard.
Effectivement. La dernière fois, on avait parlé de Donjons et Dragons pendant toute une heure.
Oui.
Puis j'ai l'impression qu'on avait juste égratigné la surface tellement qu'il y a de choses à dire là-dessus. Fait que je vais peut-être me venger encore un petit peu aujourd'hui. moi, je suis étudiant au doctorat à l'Université de Montréal en aménagement, qui est comme la science qui étudie les projets. Je me sers du jeu de rôle sur table parce que j'ai découvert que cette affaire-là, c'était un projet qu'on fait entre amis, donc les campagnes de jeux de rôle et les sciences du projet, c'est tellement lié l'un à l'autre. J'ai déposé mon mémoire récemment, fin août, il devrait être publié bientôt, sur la remédiation du jeu de rôle sur table vers les plateformes virtuelles. Donc moi, aussitôt qu'il y a les médias où le jeu parle d'un médium à l'autre, j'adore ça. Fait que c'est l'émission d'aujourd'hui.
Ben oui, c'est ça.
Je suis particulièrement content d'être invité pour parler de ça.
Ben merci beaucoup, Seb. Je sais pas qu'est-ce que tu préfères, Seb, Sébastien.
On peut y aller pour Seb. Seb. Parce que trois syllabes, c'est difficile.
C'est bon.
Je vais pas être trop familière non plus. Et mon dernier invité autour de la table aujourd'hui, Marc-Antoine Doyon. Bonjour.
C'est moi. Bonjour.
Ça va bien?
Oui, merci de m'avoir invité aujourd'hui.
C'est ta première fois à Papa Stock aussi, si je ne m'abuse.
Absolument. Pas en tant qu'auditeur. Je vous ai déjà écouté. Ah. Mais là, je suis de l'autre côté. Je suis très content.
J'espère que c'est pas ta dernière fois.
Ben non, on verra. Regarde. On a une heure. Vous avez une heure pour m'impressionner.
Ben ouais.
Ben aussi, en fait, que fais-tu dans la vie, Marc-Antoine?
Oui, mais je suis réalisateur de plein de choses, mais notamment d'une chaîne YouTube qui s'appelle Etu Game. Donc, Etu Game, c'est... Je suis réalisateur-monteur pour ça, là. C'est une chaîne où est-ce qu'on fait des critiques de jeux, on fait des tops de jeux, on va faire des... On fait tellement plein d'affaires. On fait des événements, beaucoup. On va couvrir tout le ludique au Québec qui est en... Ben, pas tout le ludique en France, mais on est allé un petit peu. On est allé à Cannes, etc.
Wow.
Fait qu'on aime beaucoup ça. Et c'est ça, de manière humoristique, j'oserais dire.
Ouais,
on essaie de réintégrer un petit peu le fun dans les vidéos de jeux de société parce que c'est important.
C'est pour ça qu'on joue aussi, pour avoir du fun.
Ben exactement, puis on fait des vidéos, je pense ça paraît.
Quand tu fais tes études Game News, moi j'ai du fun à te regarder. Là. T'as l'air de juger n'importe quoi qui passe. C'est cool.
C'est ludique en fait. C'est parle du ludique de manière ludique. Fait que là déjà, on Méta. Voit les mots.
Les mots...
Le sens qui véhicule.
Voilà, le vocabulaire qu'on va utiliser aujourd'hui.
Yep. C'est ça. On s'amuse avec ça.
Et sans plus attendre, parce que justement, on a beaucoup de choses à dire sur le ludique au sens large, parce qu'on essaie de toucher un peu à tout. On parle d'hybridité. Seb, tu voulais nous commencer un peu avec quelques définitions, et notamment sur le RPG, les jeux de rôle.
Ouais, parce que je me suis rendu compte que le jeu de rôle, c'est pas sorti ex nihilo de n'importe où. C'est pas Donjon Dragon non plus qui l'a inventé. On faisait du jeu de rôle bien avant. On dit souvent que ça vient du wargame. On pourrait en parler longtemps, mais dans les objets qui pourraient nous servir aujourd'hui, on peut commencer avec Diplomatie, qui on dit souvent que c'est le grand-père des jeux de rôle. Ben, celui-là, ce qui est intéressant, c'est que le jeu et les règles sont assez simples, mais que c'est vraiment de manière dynamique entre les joueurs que c'est là que tout le fun provient. Donc, quand tu joues à Diplomatie, c'est souvent réputé, genre, tu vas perdre ton amitié parce que tu peux aussi faire des coups de couteau dans le dos des autres joueurs. Puis là, si on sait pas clair que je fais ça dans le cercle du jeu et non dans le cercle de notre vrai amitié, si c'est pas clair, ça peut comme bleeder là, d'un bord à de l'autre. Donc déjà, on voit qu'un jeu de table peut occasionner du parlage. Est-ce que c'est du roleplay rendu là? Peut-être, peut-être pas. Mais un qui est plus obscur que j'ai découvert, ça s'appelle Modern War in Miniature. C'est un jeu de Michael F. Korns de 1966. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que là, on est encore dans le wargame. Il va y avoir un joueur qui va être isolé dans une salle avec son armée, qui est plus dans l'époque napoléonienne à l'époque. Et l'autre, il va avoir le front adverse dans une autre salle. Et là, il va y avoir un joueur qui va être entre les deux, qui, lui, va avoir accès à la table de sable du wargame. Il y a juste lui qui connaît toute l'information. Il va demander à un des joueurs, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes actions? OK, il prend ça en note. Il va demander à l'autre aussi. C'est lui qui applique les trucs. Donc, selon ce qui s'est passé avec les deux trucs qu'ils ont dit, ben là, c'est comme lui qui va arbitrer qu'est-ce qui se passe. Okay. Puis on a, y a des traces un petit peu là, de qu'est-ce qui a été écrit, qu'est-ce qui s'est dit là-dessus. Puis on se rend compte que il y avait une pente là, glissante vers la narration, puis vers
le maître de jeu.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement. Fait qu'il y a quand même un système de règles. Là. Ce truc-là peut s'acheter là, la relique là, sur Amazon, mais qu'est-ce qui en sort de ce jeu-là? Dès 66, on peut voir qu'il y avait déjà une notion d'arbitrage là-dedans. Puis si on remonte au premier fascicule que Donjon Dragon a fait en 74, il s'est accompagné d'un sous-titre. Puis ça, c'est assez important, je l'ai traduit, ça dit « C'est des règles pour des campagnes de wargame médiéval fantastique se jouant avec papier, crayon et figurines. » C'est bien important de le brander comme ça, parce que là, on sait qu'on vient d'une tradition du wargame. Et là, on veut peut-être s'en détacher ou on veut expliquer que c'est pas la même affaire que vous avez l'habitude de jouer. Mm-hmm. Fait que c'est noir sur blanc, eux déjà là, wargame, médiéval, fantastique. Fait que c'est clair qu'on est... ben au moins, là, ça peut être différent aussi parce qu'on est en coop contre un scénario, alors qu'on était peut-être habitué de se rentrer dedans avec des armées. Puis que là, on peut jouer de manière sérielle, on peut faire des campagnes.
Mais ça aurait été probablement trop risqué à l'époque, justement, de mettre de l'avant l'appellation jeu de rôle.
Ça existait pas.
Ben, c'est ça.
Parce qu'il fallait l'inventer, ce Christine mot-là.
Corrige-moi si je me trompe, mais dans le fond, ça vient aussi de l'intérêt d'arrêter de contrôler une armée totale, mais vraiment de vivre ce un des soldats vivait, n'est-ce pas?
Oui. Ça, c'est pas non plus Donjon qui l'a inventé. On avait peut-être vu ça dans Bronstein ou dans des jeux qui étaient peut-être moins connus. T'amènes un point particulièrement intéressant. Là. Même avec Chainmail, on avait une unité qui était capable de briser un bataillon complet, alors qu'on est habitué d'avoir du... tout le temps, t'avances une brique de 20 bonhommes. Là. Fait que, puis l'identification du personnage se fait beaucoup mieux quand t'en as juste un que quand t'en as plusieurs autres. Ce qui est intéressant aussi, avec la première façon que Donjon Dragon était pensé, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était désigné pour être un porte-parole. Donc, le maître de jeu disait « ben voici telle situation », puis là, il fallait désigner là, un caller qui dit « ben là, nous autres, on a décidé qu'on faisait ça, le nain fait ça, pendant que moi, je fais ça ». Puis après ça, le maître de jeu, fait qu'il y avait comme une espèce de ping-pong entre les joueurs ensemble et le maître de jeu tout seul à son côté. Fait qu'on avait aussi un rapport de plus de fonction avec les joueurs. Donc, c'était plus comme je fais un guerrier, je fais un elfe. Fait qu'on est clairement dans une fonction de rôle comme étant c'est quoi que tu vas faire dans la team. Donc, c'est un rôle comme une classe de personnage. Tu l'as mentionné, là, j'avais l'intention d'en parler aussi. Là, c'est dans Prêt spécialisé, en fait. C'est arrivé la notion de jeu de rôle. Fait que là, il y a d'autres jeux qui c'est devenu bien populaire. Le monde en fait comme oh my god, il y a tellement de potentiel, là, on fait de l'argent avec ça. Puis là, maintenant, dans les revues, là, ils se sont dit, on va appeler ça un jeu dans lequel tu fais un rôle. Fait que là, le mot role-playing game est apparu parce que nulle part, tu vas fouiller dans le livre de Donjon Dragon, c'est pas écrit role-playing du tout. Exact. Ça vient vraiment dans le plus tard. Il n'y a pas non plus de tu devrais parler comme ça. Il n'y a pas de incarner son personnage de manière théâtrale. C'est complètement absent des premières itérations. Reste que ça va peut-être apparaître dès qu'on introduit des faiblesses chez les personnages. Parce que là, t'es rendu que tu dois jouer en fonction de tes faiblesses. Fait que t'es pas toujours la personne qui va battre l'adversité qu'on met devant toi. Là, faut que tu la battes d'une manière cohérente avec le personnage. Fait que même l'alignement aussi, c'est venu jouer dans ces lignes-là. T'sais, un personnage loyal neutre, ça fera pas ça. C'est plus un neutre bon qui va le faire de même. T'sais. Fait que là, déjà là, on se rend compte que qu'est-ce qu'on dit de roleplay, c'est pas... Il y a déjà... plusieurs définitions qui peuvent apparaître comme ça. Puis aussi, on parle, est-ce que c'est... Parce qu'avec les nouveaux jeux de rôle qui sont apparus, ben là, on a fait que même, ben, le fun, c'est vraiment de faire plus du théâtre. Là. Oublions l'optimisation des chiffres puis tout ça. Puis là, il y a tout de suite un clash là-dessus. Puis souvent, aujourd'hui, on appelle ça, est-ce qu'on fait du roleplay, R-O-L-E, ou est-ce qu'on fait du roleplay...
R-O-L-L.
Exact.
Oh. Bon, on s'entend, on avait une discussion justement l'autre fois autour d'une bière, puis chacun son fun, mais moi, personnellement, mon fun, c'est le R-O-L-L, l'optimisation de... En même temps, je suis un peu contre je veux pas qu'on s'attarde trop là-dessus, mais je suis un peu contre le power gaming dans le jeu, faire le personnage le plus puissant qui existe, mais je suis pas quelqu'un qui roleplay dans mes games de D&D. Même en tant que maître, j'ai beaucoup de difficultés à faire ça.
Ah ouais, moi je roleplay au bout.
Là. Ouais,
moi,
je sais, mais t'as pas le choix, Marc.
Ah, moi j'aime tellement ça, là. Genre, moi, qu'est-ce qui me gosse?
De manière directe, là.
Oui, non, oui, puis c'est... Tu sais, j'avais beaucoup de misère dans mes premières games avec le metagaming de genre...
Ouais.
OK, puis là, quelqu'un fait quoi? Mais je suis comme, mais tu peux pas faire ça, tu sais pas cette information-là, voyons donc. Tu sais, genre, j'étais vraiment pas dans le...
Tu l'intégrais facilement. Hein.
Moi, si mon personnage perd des points de vie, il perd de la vie, tu comprends? Il perd pas des points. Là. Fait que sinon, moi, je suis vraiment plus de gauche.
De gauche. Mais je suis pas de droite, mais OK.
C'est intéressant parce que on dit jamais, on n'est jamais soit l'un, soit l'autre non plus. Ouais. Tu sais, si la mécanique en arrière ne me satisfait pas, ou si j'ai fait ça tantôt, ça marchait, là, ça marche plus. Ouais. On est... Puis toi, Sylvain, jeu de rôle?
Oui, jeu de rôle.
Genre de joueur es-tu?
Ah, bonne question. Je me situerais quelque part entre les deux. J'aime bien avoir un personnage qui est bien optimisé sur certaines choses, mais j'ai un plaisir à avoir un personnage avec des grosses faiblesses puis de jouer là-dessus. Ouais. À titre d'exemple, présentement, je suis en train de faire une campagne de... Ça fait à peu près un an et demi qu'on est dessus. Je joue un genre de mage, si on veut, puis je l'ai fait exprès de faire qu'il était hyper faible physiquement. Je tousse, tout ça. C'est vraiment faible. Mais il est vraiment maxé quand il lance ses sorts. Donc, j'ai comme le côté mécanique vraiment que j'essaie d'optimiser pour avoir quelque chose de fun quand je roule mes dés puis que ça fonctionne, tout en ayant ce côté un peu jeu de rôle personnage que j'incarne et tout ça. Donc, je me situe entre les deux.
C'est clairement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on... Puis même, on peut changer d'avis, tu sais. Dans certains contextes, on va être comme ça, puis dans l'autre, on l'est moins.
Ouais, je pense aussi que ça va peut-être dépendre de l'univers et de la mécanique dans laquelle on va jouer. Il y a des mécaniques qui vont tellement plus pousser les joueurs à incarner le personnage que d'autres mécaniques qui vont être beaucoup plus très carrées, très maximisation des stats.
Un jeu avec des êtres humains, c'est tellement difficile à caractériser,
mais...
catégoriser.
Tu sais, on parle de faiblesse, de balancement d'un personnage, tout ça, puis on parlait du... on parle du système des alignements dans Donjons & Dragons et dans d'autres jeux de rôle, j'imagine, mais j'étais un peu néophyte pour tout ce qui est pas Donjons & Dragons, je dirais. Et Pathfinder, mais de toute façon, Pathfinder, c'est essentiellement la même chose. Mais mon gros problème, c'est que... Tu sais, souvent dans les caractéristiques, tout ça, tu peux trouver un équilibre, justement, ce qu'on parlait entre le roleplay ROLL et le rôle ROLE. Et ce qui n'est pas le cas du système d'alignement, qui est vraiment quelque chose qui est entièrement basé sur justement le roleplay, le jeu de rôle en tant que tel. Ce qui est un peu dommage, parce que je fais un peu un saut, parce que je sais que tu vas en parler, mais c'est un système que le jeu vidéo, en se réappropriant l'étiquette générique du jeu de rôle, a réussi à faire avec brio dans beaucoup de cas. Je pense à des exemples, Mass Effect, Fallout, Fallout avec le système de karma, Mass Effect avec le système Paragon et l'autre truc que je me souviens pas, selon
Renegade.
Renegade, un truc de même. Ouais. Alors que, après quoi, 40 ans d'existence, Donjons & Dragons, on doit être rendu à peu près à ça, le système d'alignement. Outre le fait que c'est à l'influence quel dieu tu dois choisir, j'ai l'impression que même encore aujourd'hui, ça fait une quinzaine d'années que je joue à Donjons & Dragons, puis je m'en torche. Je suis vraiment désolé de dire ça à la radio, mais
seul, tu sais, ça reste comme
c'est peut-être un outil.
C'est un outil pour des nouveaux joueurs qui vont faire comme ah ben mon personnage agirait comment dans cette situation, qui sont pas nécessairement friands d'improvisation ou de juste narration en général. Tu sais, je pense que c'est un bel outil pour ça, mais après ça, effectivement, si si tu t'y connais, t'as pas besoin vraiment de respecter cet aliment-là.
Ouais, si je peux peut-être rebondir là-dessus. Ça fait longtemps que j'ai joué à Donjons Dragons, ouais. Ça remonte à une dizaine d'années.
Okay.
Mais si je me rappelle bien, il y a aussi certains équipements ou certains effets qui ont lieu selon ton alignement. Donc l'alignement a un effet mécanique quand même. Hein. Donc si t'es un alignement bon, tu peux porter cet item-là. Si tu
fais un semblant d'alignement bon.
Ouais, c'est ça. Mais c'est que si t'as fait ton choix d'alignement en début de partie, puis si je me trompe pas dans Donjons Dragons, moi que ça change depuis, ça peut pas changer alors qu'une personne.
Peut changer, mais ça maintenant. Peut changer si le maître décide que okay. tu fais pas vraiment un personnage loyal. Bon.
Non, encore quelque chose qui se catégorise mal.
Mais c'est ça, il reste pour moi qu'il y a quand même un aspect mécanique à ce truc-là qui est vraiment sous-jacent, mais c'est intéressant.
Ok, ok.
Ben, mais... t'as fait le pont dans les jeux
vidéo. Oui, dans le jeu de rôle. Jeu de rôle, jeu vidéo.
Ouais. Parce que c'est ça, moi, c'est un des enjeux que je trouve qu'on est en plein dedans. C'est que maintenant, le jeu vidéo, on appelle ça des jeux de rôle. Puis, oups, il me semble qu'il y a des trucs qui collent pas, du moins avec toutes les choses que j'ai dit dès le début. Puis, parce que dès le départ, le jeu vidéo, c'est clair, on a des traces. Il y a les designers qui ont travaillé là-dessus, ils l'ont dit clairement, qui se sont inspirés de Donjons et Dragons. C'est dans les mêmes années. William Crowder de Colossal Cave Adventure. Il y a eu Richard Garriott avec son Acalabeth, la saga de Ultima, lui aussi il s'en est jamais caché. Toutes les multi-user dungeons, on reprenait les thématiques de la quête ou de la grande de la Moria. Tu sais, il y a des jeux, des fois c'est des citations directes au Seigneur des Anneaux, ces trucs là mais ça c'est toujours en vue des affordances avec ce qu'on parlait du roleplay de tantôt, donc les mécaniques évolutives qui augmentent. Puis c'est clairement à cause de ce moment-là peut-être que là on est tout mélangé, parce que là on appelle ça parce qu'à l'époque ça avait du sens parce que ça ressemblait beaucoup, puis tu sais on connaissait pas trop les vers où ça s'en allait, mais là aujourd'hui on appelle ça du jeu vidéo, puis par tradition tu sais on a eu sur Nintendo toutes les Dragon Warrior, les Final Fantasy, ça serait des JRPG là, qu'on décrit rétrospectivement. Si on reste dans le tour par tour, là, des Tactical RPG avec Tactics Ogre, il y avait des Dungeon Crawler en première personne, ça peut être même en temps réel, c'est encore du jeu de rôle, fait que temps réel, en combat, Donjon Dragon essaie de le faire. Avec la série Might and Magic, mettons, pour un Dungeon Crawler. La série des Souls, toutes les Dark Souls, Bloodborne, c'est des action RPG.
Mm-hmm. Mais c'est utilisé à outrance.
Là. C'est partout. Puis c'est rendu un document d'un argument de vente, peut-être.
Ben vraiment, puis la minute que t'as une optimisation de personnage, une croissance de personnage, une arborescence de compétences, puis des statistiques après n'importe quel équipement, c'est considéré comme un jeu de rôle. Tu sais, je pense à Destiny qui est considéré comme un jeu de rôle first person shooter, mais tu sais,
mais rendu là, on peut se dire que c'est ma première définition. Ben, en fait, celle qui parlait là, de donjon des départs, là, c'est quoi le rôle que tu vas jouer? Tu vas-tu être un healer? Tu vas-tu être un guerrier? Tu vas-tu être un... Fait... Donc, ça pourrait être quand même un jeu de rôle si on a cette définition.
Ouais, rôle du rôle tactique.
Rôle comme fonction.
Ouais.
Exact.
Mm-hmm. Centré sur le personnage aussi, là, c'est comme... plus que ça que, par exemple, celui du Game Master ou de d'autres types de mécaniques. C'est vraiment la mécanique du rôle comme mais toute l'histoire autour d'un personnage qui est conservé dans l'étiquette, même si elle a le dos large puis on l'utilise à peu près pour tout.
Ouais. Il y a l'argument de tu joues le rôle de Mario Bros aussi.
Ouais, c'est ça.
Fait que là, aussitôt qu'on rentre dans cette définition-là, ben on se rend compte qu'il n'y a plus grand-chose qui tient. Là.
Tout est un jeu de rôle.
Ben, comme... ça devient caduque, exact.
Aussitôt que tu as un avatar, tu as un jeu de rôle, c'est un peu... C'est
la
facile.
Vie, c'est un jeu de rôle.
mais on parlait d'arguments de vente tout à l'heure, puis avec la première édition de Donjons Dragon qui avait pas l'appellation encore jeu de rôle, qui s'associait plutôt aux Wargames, pour à la fois se détacher progressivement de la tradition, mais en même temps pour rester attaché un peu pour justement vendre. Mais là, l'utilisation de l'étiquette générique du jeu de rôle, maintenant, ça sert plus à rien. T'sais, mais c'est ça. Ben, en fait, j'ai souvent, mettons, pour le commun des mortels, j'ai de la misère à expliquer que Final Fantasy puis Donjons Dragon, c'est la même chose. Tu fais quoi avec ça? Est-ce que l'appellation jeu de rôle a été pervertie par Electronic Arts? Non, je sais pas.
Essaye-toi de dire à quelqu'un, genre, j'ai fait du jeu de rôle hier, puis laisse-les deviner ce que t'as fait hier.
Ouais, c'est ça. Tu laisses ça planer, puis t'imagines bien les autres.
Exact. Parce que, tu sais, on incarne un personnage.
Il y a un petit décalage.
on a tout
fait. On n'ira pas là-dedans.
Non, on n'ira pas. Ouais, ça va être pour un autre épisode.
Ouais, c'est du jeu, pourtant.
Oh, oui.
Très hybride.
Il y a du fun.
Fait que, pis tu sais, en plus, là, j'ai pas parlé de GN, là, dans toute mon affaire. Il y a du GN là-dedans. Oui. Les jeux de rôle textuels, est-ce qu'on joue en même temps, de manière synchrone ou asynchrone? Je fais un pause, pis tu reviens. Moi, j'aime bien parler, parce qu'on parle de jeux de rôle sur table, mais des fois, ça pourrait être mieux dit comme du jeu de rôle verbal, parce que on est en...
La table est très accessoire dans tout ce processus.
Et je le pense aussi, pis là, on va peut-être en reparler tantôt, mais si on appelle ça du jeu de rôle papier, avec la technologie... on va en parler aussi, tu sais, ça a tendance à différer. Fait que le jeu de rôle d'interprétation, jeu de rôle de cohérence, est-ce qu'il y a un arbitre? Tout ça, c'est des concepts qu'on a, puis qu'on peut regarder, puis qu'on peut étendre à d'autres modèles de jeu. Puis quand on a parlé, on parlait de qui qu'on pourrait inviter pour l'émission, Sylvain, que le Mega Game, lui, il pourrait déjà avoir des critères là-dedans qui sont remplis, je pense, pour en avoir fait un.
Oui. Mais c'est ça, parce que je tarde à participer à l'un de tes Mega Games, mais ça ne devrait pas... ça va arriver.
Ça serait vraiment fun pour les gens qui écoutent et qui ne savent
qu'est-ce
pas du tout
méga game?
Qu'est-ce qu'un Mega Game.
Oui.
Ok, un Mega Game, en fait, les Mega Games, c'est un type de jeu. Okay. Qui a été lancé, si je ne m'abuse, années 70-80 en Angleterre. Et ça a pris quand même beaucoup de temps avant que ça sorte de là-bas et que ça se répande un peu partout sur la planète. En fait, c'est en 2015 qu'il y a des vlogueurs de jeux de société quand même très connus qui font Shut Up and Sit Down, qui sont allés couvrir un de ces événements-là. Eux, ils font du jeu de société habituellement, pas mal juste du jeu de société, puis ils sont allés à l'événement, et ça a créé une contamination mondiale, parce qu'ils sont britanniques, mais ils sont vraiment vus par des gens de partout dans le monde, et donc ça s'est répandu très très rapidement, et c'est ce pourquoi j'ai découvert le jeu. Donc qu'est-ce que le jeu? C'est, je le présente comme un mélange entre un jeu de rôle grandeur nature, dans ce sens où les joueurs incarnent eux-mêmes des pions dans le jeu. C'est pas on joue sur une table uniquement, je suis un personnage, même si dans Mega Game je suis pas obligé d'être tant un personnage que ça, je peux être moi-même aussi, on reviendra là-dessus. La deuxième truc avec lequel j'hybride, c'est avec du jeu de société, parce que comme un jeu de société, il y a des plateaux de jeu, si on veut, avec des pions, des cartes, il y a du matériel vraiment très, très associé au jeu de table, mais il y a aussi cette idée que l'événement, le jeu est divisé en tours de jeu. Comme un jeu de société, il y a des tours qui sont clairement définis. Okay. Et le troisième truc avec lequel je mélange, et qui est moins un jeu, même si on pourrait dire que c'est une forme de jeu, c'est une espèce de simulation géopolitique. Donc, si on peut considérer peut-être l'ONU comme étant un jeu à sa façon.
Pour grandes personnes.
C'est ça. Pas mal intéressant que ce soit déjà passé là-dessus en plus. Mais...
Et puis, on pourra revenir sur le détail de à quel point la politique, la structure sociale et tout ça sont des jeux en quelque sorte, parce que les règles sont des règles de jeu, les règles de vie en société, bref. Donc c'est ça, donc le Mega Game, c'est une espèce de mélange de tout ça. L'idée aussi de Mega Game, ben, c'est que c'est un jeu un peu surdimensionné, en ce sens où celui que j'organise, c'est un scénario spécifique, parce qu'il existe plusieurs scénarios. Celui que je fais, il s'appelle Watch the Skies en anglais, mais vu qu'on l'a traduit, on l'a appelé Nous ne sommes pas seuls. L'idée, en fait, c'est qu'il y a à peu près une cinquantaine de personnes qui participent à la fois, plus une quinzaine de maîtres de jeu. Moi, je les ai appelés maîtres de jeu, même si en anglais, ça c'est intéressant, ils appellent pas Game Masters, mais ils appellent Control, qu'on pourrait peut-être traduire par arbitre. Donc là, il y a comme une idée un peu différente. Ouais, contrôleur.
Plusieurs arbitres.
Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs arbitres. J'ai préféré l'appellation maître de jeu parce que c'était plus connu. C'est le terme qu'on utilise généralement dans les jeux ici. Et en fait, c'est un gros bordel. Un méchant gros bordel pendant une journée complète. Mais en fait, j'en ai deux à la table qui ont déjà joué qui pourront témoigner.
C'est vraiment c'est bien.
Ben, il paraît que c'est le fun. J'ai jamais joué moi-même vu que je l'organise, mais c'est ça. Bref, comment ça fonctionne pour être un peu plus concret? C'est en gros, dans le scénario spécifique, c'est que les joueurs s'inscrivent en pays. Ils choisissent la France, les États-Unis, etc., les grandes puissances. Et au sein d'un pays, les joueurs se divisent des rôles. Donc, il y en a un qui va jouer le président, le chef d'État. Il y en a un autre qui va jouer le scientifique. Il y en a un autre qui va jouer le ministre de la Défense, un autre le délégué à l'ONU, etc. Et ils doivent, pendant la journée, gérer des crises. comme s'ils géraient la situation mondiale, tout en s'assurant que leur pays aille pour le mieux. Et comment est-ce qu'on fait cette simulation de gestion de crise? C'est que le jeu, comme je disais, est divisé en tours. Donc, on a 12 tours de jeu qui sont subdivisés en deux portions. La première portion, c'est une portion où, en fait, tous les joueurs de chacun des pays vont se retrouver dans une salle. Donc, par exemple, tous les scientifiques vont aller au congrès scientifique. Tous les délégués à l'ONU vont aller siéger à l'ONU. Tous les militaires s'en vont dans une salle où il y a une grande carte du monde et ils font des déplacements de troupes, ils font des combats, etc.
T'es plus nécessairement avec tes chums rendus là.
Ouais, c'est ça, exactement. Là, tu te retrouves avec les gens des autres pays à faire, à faire les tâches que t'as à faire en tant que militaire. Ou à l'ONU, ben, il faut que tu votes sur des projets de loi. Ben, Sébastien, t'avais joué l'ONU, à l'ONU, si je me trompe pas.
Jouais l'Inde.
À l'Inde, oui, c'est ça.
T'avais un très beau costume.
Ouais, puis si je me trompe pas, ton pays t'avait mis dans le noir total à un moment donné parce que tu faisais plus confiance ou je sais pas trop. Là.
Ouais.
Bref, on reviendra sur les détails.
Des dynamiques émergentes.
Et donc, pendant cette première portion, les joueurs sont vraiment laissés à eux-mêmes dans leur groupe de même rôle et doivent gérer les choses. Et après la fin de cette moitié-là, ils reviennent dans la salle principale, ils se rassemblent en équipe et là, il y a comme une espèce de petit planning qui est « Ok, qu'est-ce qui s'est passé de votre côté? Qu'est-ce qu'on fait pour la suite? » Et le chef d'État, lui, dispose d'un budget. Donc, c'est des crédits qu'il doit allouer à son équipe. Il n'y en a évidemment pas assez pour tout le monde. Et il faut qu'il priorise les choses. Donc, il y a cette idée, en fait, que dans l'équipe, il y a un décideur qui essaie de gérer tout le truc parce que lui, il a l'input de toute son équipe et il doit s'assurer de faire progresser au mieux sa partie. Et donc, il y a cet élément-là. Mais comme on l'a dit, c'est un méga game, c'est un jeu un peu surdimensionné. Il y a d'autres joueurs qui font d'autres rôles. Donc, par exemple, on a des joueurs, puis Marc-Antoine...
C'est pas fait, toi.
Un média.
Okay.
Je fais un média parce que dans le fond, oui, il y a cet aspect de passation d'argent, puis il y a l'aspect mécanique, mais c'est beaucoup de la gestion d'information aussi, ce jeu-là. Parce que comme tu as des joueurs qui s'en vont dans différentes salles, ben eux, ils ont de l'information privilégiée. Après ça, est-ce qu'ils vont dire la vérité à leur équipe? Est-ce qu'ils vont regarder pour d'autres équipes? Est-ce qu'ils vont comment ils vont gérer tout ça? C'est super intéressant. Puis il y a les médias. Qui...
Exactement, c'est ça. Donc Marc-André.
Marc-Antoine.
Marc-Antoine, ouais, c'est ça, j'ai dit Marc-Antoine, j'étais correct. Excuse-moi. Donc c'est ça. T'as les joueurs qui sont les médias. Qui rapporte l'information mondiale et on a un tableau qui est un fil de presse, donc en temps réel, les médias update l'actualité mondiale. Et donc, quand t'es chef d'État, ben, t'es seulement pris dans la salle principale, c'est pas ce qui se passe dans les autres salles, puis là, tu vois l'actualité, puis là, tu fais comme, ah, OK, il y a un conflit qui vient d'être déclaré, OK, il va falloir que je gère ça. Et c'est les médias qui se font le relais, sauf que les médias sont pas des médias neutres, comme dans la vie, ils ont chacun des intérêts particuliers, notamment, ils sont en compétition les uns avec les autres pour avoir le Pulitzer. Et dépendamment de comment les joueurs veulent le jouer, ils peuvent décider de vraiment s'allier à un pays, puis de vraiment, comme, pousser ce pays-là, comme ils peuvent dire, non, moi, je suis un média, je veux être égal avec tout le monde, mais après ça, ça peut déborder. On a déjà vu des pays qui ont décidé d'attaquer les bureaux d'un média parce qu'il avait fait de la mauvaise promotion.
C'était pas prévu par Eric, ça, non?
On essaie d'être le plus prêt à tout, en fait.
Okay.
Et c'est ça qui est un peu particulier, c'est qu'avec tout ce comme je disais, ce gros bordel-là, l'équipe qui est derrière ça, donc mon équipe qui m'aide à gérer la journée, on est là, en fait, pas pour imposer une histoire, pas pour imposer un scénario, mais plutôt pour s'assurer que le truc reste relativement cohérent. Donc, on laisse les joueurs générer le contenu. Donc, on a une base, on lance le truc, puis après ça, c'est les joueurs qui vont nourrir le scénario. Puis des fois, c'est un élément qu'un joueur, des fois une fausse information qui va devenir la grosse affaire, le gros sujet. Donc, tout le monde va se concentrer là-dessus. Et nous, on va juste s'assurer que le jeu continue à progresser et qu'on reste dans quelque chose qui est quand même assez le fun pour tout le monde. Et je veux rajouter, par-dessus ça, on a une autre équipe de joueurs qui sont des extraterrestres dans une salle à part qui planifie une invasion de la Terre. Donc, ça rajoute un gros inconnu. Et donc, tout ce mélange-là, en fait, fait l'événement de la journée. Et c'est difficile de définir un méga game en soi. Je suis dans des groupes de discussion de méga game, puis il y a une des notions qui revient généralement, c'est le côté un peu surdimensionné. Donc que ça se joue à un nombre de joueurs quand même non négligeable, là, pas comme un jeu de société ou un jeu de rôle sur table où on est 5, 6, 7. Là, certains vont dire oui, mais dans ce cas-là, c'est un GN, c'est juste un GN, mais il y a certaines mécaniques qui sont vraiment très jeu de table.
Et il y a aussi de victoire.
Ouais, c'est ça, les conditions de victoire. Ça, c'est une bonne question. Les gens, des fois, me demandent, genre, mais comment on gagne à ce jeu-là? En fait, la question, c'est plus comment on ne perd pas. Parce que c'est géré par un... par un petit outil qu'on appelle l'échelle de panique, qui au début la partie commence à zéro sur 250, donc ça veut dire que tout va bien, l'humanité est en paix, tout ça, mais plus il y a des événements troublants qui arrivent, plus la panique mondiale monte, et si la panique atteint le 250, l'humanité au complet a perdu parce qu'elle entre dans une ère de chaos total, coup d'état, bombe nucléaire, tout ça, donc les joueurs ont comme ce garde-fou qui les empêche de faire n'importe quoi parce qu'ils veulent éviter que ça pète, si ça pète, ben tu perds, mais au final, tu ne gagnes pas de façon définie. C'est pas moi, en tant qu'organisateur, je vais dire, vous autres, les Indiens, justement, vous allez gagner si vous faites ça. On va plutôt dire, vous voulez ça, mais on vous laisse voir comment vous voulez le faire. Puis au final, si vous jugez que c'est pas tant intéressant, ben changez le truc, puis développez-le. Puis c'est plus aux joueurs de se trouver leurs propres petits objectifs, leur façon de gagner. Tu sais, par exemple, tu peux avoir un gars à l'ONU qui dit, moi, j'aimerais passer un projet de loi sur une démilitarisation des armes nucléaires. Puis il va essayer de faire ça pendant sa journée, puis c'est correct, on va l'intégrer au jeu.
Donc, ça, c'est une philosophie du jeu de rôle sur Terre qu'on peut avoir. Là. Qu'est-ce que les joueurs veulent faire?
C'est ça.
C'est fou à quel point que ce truc-là mélange plein de trucs. Puis que ça devienne cohérent, parce que t'as l'air à dire que ça marche.
Ben, a priori, ça marche.
Oui, ça marche super bien. D'ailleurs, ben, c'est ça. Moi, j'ai produit une vidéo pendant que j'étais là. Quand je jouais.
Je sais pas comment t'as fait pour filmer en même temps que tu jouais.
Moi non plus, j'ai aucune idée. Genre, pis ça se voit dans la vidéo, la panique. Ouais. T'as peur de comme, bon, ça fait une heure et demie que j'ai rien filmé, mais croyez-moi, c'est vraiment le fun. Fait que, non, le temps passe extrêmement vite aussi. C'est beaucoup d'investissement, mais c'est tellement le fun. Je pense que, tu sais, t'as fait une super bonne description là, mais tu peux pas savoir c'est quoi tant que t'as pas joué. T'sais.
Effectivement.
Moi, ça me tente. C'est sûr, j'en fais.
Les trahisons. Tantôt, tu parlais de justement le prendre personnel ou le prendre les mauvais perdants, les mauvais gagnants, les personnes qui vont mettre du leurre tellement dans le jeu.
On connaît un petit peu du diplomatie là-dedans.
Ouais. Oui, exactement.
Moi, tu m'as eu à la bisbille. Hein. Moi, c'est ça. J'adore tellement ça.
Mais c'est ça, moi, je suis un joueur vraiment plus communiste. Là, que je veux que tout le monde soit content puis que tout le monde ait les bonnes infos.
Je confirme pour avoir déjà joué avec toi.
Oui, mais là, c'était vraiment. Les gens me regardaient dans les yeux puis me donnaient des informations ou me disaient. Je te dirais pas ça, je te fais pas confiance. Puis ça fait tellement mal. Je veux dire, t'es vraiment comme, ben voyons donc.
T'es tellement impliqué corporellement là-dedans que c'est comme ton aide se mélange avec ton personnage. Puis
absolument,
là, les frontières,
des sueurs froides de comme, waouh, je me fais jamais comme contredire comme ça dans vie. Tu sais, je veux dire, tout le monde, on essaye d'être. Tout le monde joue la vie de comme, ben on essaye d'être fair, puis on essaye que tout le monde soit content. Ben oui, on s'excuse tout le temps. Mais tu sais, là-dedans, là, c'est comme justement, le drapeau élevé, puis t'es comme, ok, ben, tu peux faire ce que tu veux. T'sais.
Mais c'est vraiment cool, mais en fait, ce que je me demandais, c'est outre le tableau des médias, est-ce qu'il y a moyen de communiquer? Est-ce qu'il y a des supports numériques pour communiquer? Genre, est-ce que vous pouvez vous envoyer des messages textes dans les pays?
Si tu as ton téléphone, tu envoies des messages textes, tu peux. Sauf que le temps que tu passes à écrire ton message texte, c'est de faire que tu manques à faire autre chose.
Ouais.
C'est une question de gestion de temps et d'information parce que, comme je disais, ça va super vite et il y a énormément de contenu qui est produit parce qu'une cinquantaine de joueurs, ça se laisse un peu libre eux-mêmes, même s'ils sont cadrés, ça génère des situations. Donc oui, tu peux passer du temps à envoyer des messages textes, mais tu vas peut-être manquer un petit truc. Mais sinon, en termes d'outils vraiment... on a notre tableau sur lequel tu peux voir le fil de nouvelles. Les chefs d'État ont aussi un petit outil de gestion qui leur permet de voir leurs revenus en temps réel. On a un outil de communication avec les aliens. Donc, les chefs d'État ont une ligne avec les aliens qui est un espèce de système de chat, si on veut, mais avec un décalage. Donc, c'est pas en temps réel, pas direct. C'est voulu pour différentes raisons. La première, c'est que si ça allait super vite, ben ça brise un peu le principe du jeu qui est un peu l'incompréhension et tout ça. Puis le deuxième, ben ça justifie mécaniquement parce que quand tu reçois un message des aliens, t'as besoin que ton équipe de scientifiques experts le décode. Donc il y a comme un décalage entre le moment où le message est envoyé et que tu le reçois.
Donc il y a du jeu de rôle textuel aussi.
Aussi, oui.
Viens à ma liste de tantôt là, le jeu de rôle en tant que poste, jeu de rôle textuel, il y a du jeu de rôle verbal, il y a du rôle play d'interprétation. Il y a du roleplay de cohérence, il y a des arbitres.
Ouais.
My God, ce truc-là, il fait des checklists partout.
Si tu veux, tu peux même pousser le truc avant l'événement, on ouvre des groupes Facebook où les joueurs qui le veulent peuvent commencer à interagir entre eux. D'une game à l'autre, c'est vraiment variable. Vu qu'on l'oblige pas, mais qu'on ouvre la porte, on a déjà eu une partie, une équipe qui, une semaine avant Mega Game, ont fait une vidéo propagande de la Russie. Ils se sont filmés, puis ils annonçaient leurs intentions aux autres pays. Donc là, ça a fait paniquer les autres joueurs qui faisaient comme « on n'est pas prêts
». Surtout aussi, il faut qu'on zaniaise.
Ouais, c'est ça, exactement.
Donc là, tu rajoutes le mot « asynchrone ».
Exactement.
Il y a aussi du roleplay asynchrone là-dedans.
Ouais. C'est comme l'ultime jeu hybride de Mega Game.
Ben, j'oserais pas aller jusque-là, mais oui, c'est vrai que c'est.
On s'obstine parfois à comment on devrait l'écrire, jeu de rôle, puis après tu as un S ou pas de S. Ben là, on a un S. Là.
Ouais. On a plusieurs
jeux. Pas vraiment le jeu,
ouais,
c'est ça.
Ouais, ouais, ouais. Ah non, c'est vraiment toute une expérience.
Ouais. Essayez ça, googlez Mega Game.
Parfait. C'est quand le prochain? On fait un coup de pile facile.
J'aimerais avoir une réponse, en fait. Le dernier que j'ai organisé, c'était il y a un an, jour pour jour à peu près. Et depuis ce moment-là, je cherche un local. C'est très difficile parce que ça a des besoins très spécifiques. Il faut des salles séparées, une salle principale qui est assez grande. Donc souvent, quand je fais mes recherches, il n'y a pas exactement ce qu'il faut. Il faut aussi de la connexion Internet pour pouvoir faire fonctionner les petites applications. Et donc, je cherche une salle. Ça avance bien. J'aurais espéré pouvoir dire aujourd'hui, grande nouvelle, j'ai la date et tout ça. Mais ça augure
très bien.
Il faut suivre la page.
C'est quoi le nom de ta page Facebook?
Mega Game Montréal, tout simplement. Tout simplement, Mega Game Montréal, c'est ça.
Vous avez un local sous la main, parlez à Sylvain.
Oui, exactement. Ça me ferait beaucoup plaisir, ça m'aiderait beaucoup parce que à chaque semaine, il y a au moins une personne qui me contacte pour me dire c'est quand le prochain.
Ouais. Wow. Il y en a combien des experts sur le Mega Game au Québec?
moi, genre.
Je vais être obligé d'écrire un chapitre dans ma thèse si je n'avais pas le choix.
Tu vas peut-être avoir des courriels après l'émission.
Ça se peut.
Mais je pense qu'on a un peu, je sais pas si vous aviez des choses à rajouter sur le Mega Game, mais c'est super intéressant comment ça mélange justement tout cet ensemble de règles-là et des règles qui ont émergé, par exemple, avec le RPG, comme tu disais, Seb, au début de l'émission, mais qui ont fini par être adaptées, réutilisées par d'autres médiums, par d'autres plateformes, réutilisées et réinvesties dans le Mega Game. Puis il y a aussi toute la... pour faire une transition... très coq à l'âne vers... Ben, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est toute la tendance des jeux Legacy depuis quelques années et de Gloomhaven, dont tu voulais parler, Alex. Mais comment...
entre autres, j'imagine que tout le monde veut en parler.
Mais comment... c'est quelque chose qui par définition, est très réutilisable, les jeux de plateau. Donc, c'est fait pour être rejoué...
Traditionnellement,
ouais. Oui. Et là, c'est comme devenu une espèce d'obsolescence programmée du jeu, parce qu'on joue une fois, on a déballé toutes les petites boîtes, on a collé tous les collants, et c'est fini.
Puis déjà, on voit, c'est tellement un mode récent, déjà on voit des legacy rejouables, avec Charterstone, avec...
Ouais, avec les deux côtés du plateau.
La vente de Charterstone, c'est beaucoup faite sur, oui, on a 12 games, où est-ce que ça évolue, mais après, tu peux continuer à jouer avec.
C'est ça.
Tu peux continuer, puis tu peux même acheter un petit paquet à côté qui fait que tu peux recommencer ta game à zéro, puis même affaire avec Gloomhaven, il y a des collants que tu peux décoller. T'sais.
Mais juste pour les téléspectateurs. On est filmé, techniquement. les auditeurs, auditrices. Un jeu Legacy, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu de société de ce qu'il y a de plus normal. Sauf que c'est généralement fait sur un mode campagne. Donc, on va jouer plusieurs parties. Au fil des parties, le jeu va évoluer. On va notamment apposer des autocollants généralement permanents sur le plateau de jeu. On va ouvrir des boîtes qui sont scellées au début de la campagne. Et on va aussi déchirer des cartes. Ce qui fait que généralement, c'est 80$.
Tu peux déchirer et faire d'autres choses avec les cartes. Tu peux les brûler.
Tu peux les brûler,
les tremper dans la vaisselle.
Mets dans ton blender.
Je me souviens les débuts quand Pandemic Legacy saison 1 était sorti, à les vidéos de on fait cuire notre Pandemic Legacy sur le barbecue, on le met dans la piscine. Quelque chose du rituel. Mais...
comme il y a quelque chose avec cette nouvelle dynamique-là qui a changé un peu les habitudes des joueurs et des joueuses.
Oui, vraiment, mais la particularité, en fait, de... je sais pas si ça... parce que là, je parle mes mots, puis j'ai comme 13 idées en même temps. Mais en fait, c'est parce que Gloomhaven, pas Gloomhaven, mais mettons, les jeux Legacy, qui ont vraiment changé les habitudes des joueurs? Je me le demande parce
combien de jeux t'as joué 10 fois?
Mm. Tu sais, combien de jeux t'as joué 10 fois? Moi, j'en, même dans ma collection, des
jeux. Outre Monopoly.
Outre. Ouais, mais on peut s'arrêter de parler de Monopoly.
Monopoly Legacy.
Monopoly Legacy. Ah, ça s'en vient.
Oh mon Dieu, oui.
C'est sûr que ça s'en vient.
Je vais l'essayer.
Moi, je déchire tous les Monopoly que vous voulez.
Mais je me le demande, parce que combien de jeux on peut dire qu'on a vraiment.
Ben, c'est bon.
Qu'on a fait un commitment que OK, on va jouer 10 parties avec un groupe et tout ça, tu sais, il y en a pas beaucoup.
C'est
là.
Peut-être là où est-ce que ça change l'habitude des joueurs, c'est que ça t'oblige à retourner au même board, puis ce qui est un argument de vente au final, parce c'est que la seconde que quelqu'un va dire ah ouais, mais c'est un petit peu cher payé pour un jeu que tu détruis, t'es comme oui, mais tu vas y revenir entre 12 et 24 fois
au moins.
Fait que puis même chose
cinéma,
avec Gloomhaven.
Combien ça fait un billet de cinéma? Ouais.
Absolument. Puis tu sais, Gloomhaven, c'est quoi? C'est 100 heures de jeu?
À peu près, tu sais, considérant que il y a un livre de règles de 100 missions à l'intérieur, dont 50 qui sont obligatoires que tu vas passer.
Qui sont obligatoires.
Ouais, qui font partie de la campagne principale, puis les autres 50, c'est des side quests, donc tu fais quand tu veux. Puis considérant que ça prend, disons, 2 heures de jeu par mission, 45 minutes de setup et 1 heure et quart de jeu. Mais ouais, non, c'est ça. Mais en fait, je fais pas de la vente. En fait, ben, je fais de la pub, mais de toute façon, il est pas trop à ce jeu-là. Mais c'est quand même un bon investissement, Gloomhaven, parce que justement, bon, pour revenir à l'argument, est-ce qu'on en connaît beaucoup des jeux qu'on va retourner 10 fois? Puis c'est une expérience qui est un peu... Je veux pas avoir l'air trop hypé, mais c'est une expérience qui est quand même unique, mais qui reprend des bonnes idées d'un peu de tout, tu sais. Même la quatrième de couverture de Gloomhaven se dit comme un jeu de rôle tactique mélangé avec un livre dont vous êtes l'héros, carrément. Parce qu'on a des trucs, bon, d'une mission à l'autre, qu'on va piger des cartes d'événements. Mais bon, ça revient, le jeu de rôle, en fait, tu sais, on parle toujours du céréalocentrisme du jeu vidéo ou du jeu de société, mais au final, le jeu de rôle, c'est tout. Le jeu de rôle est partout. Mm-hmm. Pour vrai, il se mélange à toutes les sauces,
puis en plus c'est hybride aussi, parce que la boîte de Gloomhaven est assez grosse que ça peut être une table.
C'est vrai.
Ça peut être un meuble.
Oui. c'est vraiment pratique
à ce niveau-là. T'sais.
Un petit tabac à café là, comme ça. Ouais.
Mais c'est une des premières questions que je me suis posée en voyant ce jeu-là, c'était il y a tellement de stock dedans. À quel point tu voulais faire un jeu vidéo puis que t'as fait un jeu de société?
Ouais.
Mais aussi, qu'est-ce que ça change de faire un jeu de société et non pas de faire un jeu vidéo?
Ouais.
C'est comme, quelle dynamique on veut instaurer? Et c'est nécessairement, ça doit être le côté société et non quand on joue à un jeu vidéo.
Mais en même temps, quand tu joues à
partage.
Beaucoup, c'est ça, vrai. Avec ODA, MMORPG.
Oui, c'est ça. Il y a énormément de jeux vidéo aujourd'hui que c'est l'intérêt de ce jeu-là en particulier, c'est de jouer online avec d'autres mondes.
Mais il y a aussi, la dynamique, c'est pas pareil quand tu joues assis autour d'une table avec des amis. Versus online, si tu peux, tu sais, il y a toutes les accessoires là, on commande de la nourriture, on va aux toilettes, il y a toujours des interactions qui sont pas les mêmes.
Les meilleurs moments.
Les meilleurs.
C'est juste ça, mais ça change les dynamiques et ça change les conversations et le fait d'être en coprésence dans un même lieu, ça change aussi comment on interagit ensemble versus chacun de son côté devant un ordinateur.
Tu parles de dynamique aussi, je pense que un des aspects intéressants du jeu de société versus le jeu vidéo, ça va être justement le rythme, tu sais.
Ouais.
Le jeu de société, ben qui n'est pas resté devant un jeu vidéo plutôt, puis que t'en oublies le temps, là, t'es comme waouh, ça fait déjà 2h30 que je joue à cette affaire-là, puis j'ai presque pas avancé, alors que mais en même temps, t'as fait énormément de choses dans le jeu vidéo. C'est très rapide, alors que le jeu de société, il y a quelque chose de vraiment plus lent, de vraiment plus zen, dépendamment des jeux.
Mais ton rythme s'adapte en fonction, tu sais. Moi, en tant que joueur pour autant de jeux vidéo que de jeux de société, le 3 heures de jouer à un jeu vidéo, je le vois pas passer parce que, tu sais, je fais beaucoup de choses, mais un jeu de société, à un moment donné, quand ça dure plus que 5 heures, ben, je perds le fil.
Il faut que tu trouves le plaisir à je veux dire, à regarder les autres jouer aussi, à en discuter aussi, surtout dans des gros jeux comme un jeu de 7 heures, là, des jeux vraiment, vraiment
Twilight
longs.
Imperium.
Je pensais à ça, le nom me venait pas, mais Twilight Imperium, il faut que tu tripes à à en oublier quand ton tour revient, ouais. C'est quoi que t'as fait au dernier tour, tu sais. Faut que t'aimes ça, faut que t'aimes beaucoup l'aspect société du jeu de société quand t'embarques, quand t'embarques dans des games aussi de grande envergure parce comme que... ça. Alors que Gloomhaven, c'est assez rapide.
Ouais. Mais faut que tu regardes quand même les autres jouer, tu sais, parce qu'il y a un peu un aspect compétitif dans Gloomhaven qui est les quêtes personnelles que tu piges au début de la campagne, au début de chaque mission, tu sais. Tout le monde a un objectif commun qui est généralement, bon, aller chercher le trésor ou à l'autre bout du donjon ou tuer tous les monstres, mais en même temps, tu sais, il y a des joueurs qui ont carrément des objectifs bizarres en début de mission, genre attaque personne pendant la mission, puis là t'es comme hey, tu veux-tu m'aider, puis il est comme non parce que j'aimerais ça remplir mon objectif personnel. Puis tu sais Gloomhaven, puis en fait tous les jeux Legacy, on parle de dynamique, mais ça change considérablement la dynamique de la personne qui explique les règles, le lecteur de règles, l'explicateur de règles, l'animateur, peu importe comment vous l'appelez, parce que les jeux Legacy, le propre de l'explicateur de règles, et là on va arrêter de se mentir, là, c'est pas vrai que dans tous les jeux, tout le monde connaisse le jeu avant de commencer la partie. Il y a souvent une personne qui...
C'est souvent lui qui possède le jeu.
En fait, les meilleurs games de jeux de société, souvent que tu vas jouer, c'est quelqu'un qui va avoir appris les règles de son bord, puis qui va l'expliquer à tout le monde. Ouais.
Mais les jeux Legacy changent cette dynamique-là parce que c'est impossible, même pour le lecteur de règles, de connaître tous les jeux à l'avance. Puis ça, c'est ce qui est particulier, en fait, avec les jeux Legacy.
Mm-hmm. Ouais, cette idée de la règle qui se modifie au fur et à mesure, ça, c'est complètement capoté. Ouais. Mais un autre truc par rapport aux jeux de rôle, disons, plus traditionnels, là, autour de la table avec le maître de jeu, parce que je parle de Legacy à différentes personnes, puis on m'a dit, ben, c'est un peu comme un jeu de rôle, finalement, parce que t'as une histoire qui se développe, puis je disais, la différence, c'est qu'avec un maître de jeu, le maître de jeu, il a toujours pouvoir de réajuster le truc. Ouais. Dans le Legacy, j'ai déchiré ma carte, je l'ai déchirée. Il faut que j'assume. Et pour moi, ça change beaucoup. Quand arrive le moment d'une décision, tu fais comme « Wow, mais notons, on s'arrête deux secondes. Qu'est-ce qu'on choisit? »
Qui tranche.
C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'avec dans une partie de jeu de rôle, personnellement, je peux faire comme « Oui, le choix est crucial, mais c'est pas grave. Au pire, si on est en train de faire une grosse connerie, le maître de jeu, il veut quand même s'assurer qu'on ait une bonne expérience. Il va s'assurer que ça va se rééquilibrer. » C'est ça.
Ouais. C'est carrément ça. Tu sais, dans un Legacy, c'est une borne, en fait, qu'on va placer. La règle, c'est vraiment ça. Ça va être une borne pour limiter les possibilités de jeu. Alors que dans un jeu de rôle, c'est plutôt un nœud pour une arborescence narrative qui va amener à d'autres choses. C'est ça, là.
C'est intéressant parce que tantôt, tu nous parlais d'une expérience que tu as eue justement avec Charterstone, qui est un jeu de société Legacy, que tu as joué au complet avec des règles pas correctes.
À la partie 8, on s'est rendu compte que ça avait plus de bon sens. Okay. Parce que tu gagnes chaque fois que tu as 10 points, tu as une étoile, et après ça, ça donne un bonus en début de partie si tu as rempli la ligne.
Ouais.
Alors que nous, on pensait que c'était chaque étoile te donnait le bonus. Donc, on commençait un round, puis on avait comme plein de ressources, tellement qu'on lavait la planche de jeu. Fait que c'était pas si mal au tour 5. Mais quand on arrive vers la fin, là, on est cassé, c'est sûr que ça marche plus.
Puis tu vois, nous, on a joué à Seafar, qui est un autre jeu Legacy que je ne recommande pas du tout.
Ouais, que personne ne recommande, en fait.
Non, que personne ne recommande, mais on a joué avec des règles. Je pense que les deux, trois premières games, on a joué que... Il y a beaucoup de dés, il y a beaucoup de hasard dans le jeu. Puis tu as une face de dés vide, donc un échec total. Une face avec un petit point, qui est une réussite, je pense qu'ils appellent ça une réussite partielle, et que nous, on a considéré comme un échec partiel pendant beaucoup de games, et une étoile qui est un échec total. Donc, toutes les fois que les gens lançaient des petits points, ils réussissaient pas leur objectif. C'est quand même dangereux de jouer un Legacy, mais ce qui est intéressant dans Charterstone, c'est que à même les règles, c'est écrit, si jamais tu comprends mal une règle, ou si vous jouez d'une mauvaise manière, ben la règle que vous avez compris s'applique jusqu'à temps que vous vous rendez compte que c'était pas la bonne, t'sais. Fait que ça, c'est implémenté dans les règles que t'as le droit de faire l'erreur. Ouais. Donc à ce niveau-là, le designer du jeu va jouer un peu le rôle de maître de jeu qui va faire comme check, vous avez le droit de vous tromper. Ouais.
Mais c'est vrai que dans Legacy, moi j'ai fait Pandemic 1, je suis sur le 2, et il y a cette idée qu'il n'y a pas une partie de Legacy où ce que tu vas faire sans erreur de règle. C'est comme c'est là. Puis, puis le problème, en fait, le truc que j'ai découvert, c'est que maintenant, quand il y a un truc qui est un peu weird, on se dit, est-ce que c'est le jeu ou on est en train de faire une erreur de règle? On n'est pas sûr. Qui s'en va vérifier sur Internet puis qui se sacrifie pour le groupe parce qu'il va se faire divulgâcher peut-être quelque chose.
Ouais.
Donc là, c'est que bon, ben, je prends mon téléphone, je vais checker, puis OK, ah, ça on ne savait pas, mais je le dirai pas. Ah, bon, ben, c'est bon, on jouait correct, c'est juste qu'on avance le scénario, mais même si c'est bizarre, c'est normal. Mm-hmm. Puis c'est ça qui est un peu particulier, là. C'est comme dans un jeu vidéo que tu peux te divulgâcher un peu sur l'histoire à ouais. venir. Dans un jeu de société normale, tu te divulgâches de rien, là, t'auras pas une.
Non, non. Mais tu peux quand même jouer vraiment longtemps d'une mauvaise manière, ouais. Mais ça gâche. Pas vraiment l'expérience, je veux
mais
dire.
Mais l'expérience se transforme avec ces erreurs-là ouais. aussi. Je me souviens quand on avait joué à Pandemic Legacy ouais. 1, on avait ignoré des règles sans s'en rendre compte, puis c'est ça, à la fin, on a gagné, mais qu'on n'aurait pas dû. Mais en même temps, c'était notre expérience de jeu. C'est celle-là qu'on c'est a ça. Eue, puis elle ne changera pas parce qu'on rejouera probablement jamais à Pandemic Legacy. Là.
Mm-hmm. Non, je l'ai jeté.
Ah, c'est ça.
Je te l'annonce.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, Néwit? Anyway,
mettre ça dans un cœur.
Ah, ouais. J'ai déjà au village des valeurs, puis j'ai encore
oh, wow! Pandemic Legacy!
Quelqu'un va l'acheter.
Ouais. Non, l'émission tire à sa fin et on peut essayer de conclure un peu ou d'essayer oui. de résumer tout ce qu'on a dit parce qu'on a dit beaucoup de choses. Mais est-ce que je peux comprendre si on veut essayer de penser les hybridités ludiques? C'est sûr que nous, on s'est basé beaucoup sur les règles et les dynamiques mm-hmm. qui changent des expériences de jeu, mais au final, c'est comme chaque expérience est unique, hybride ou pas hybride, puis essayer d'évaluer ces hybridités-là, c'est quand même aussi difficile que d'évaluer les jeux individuellement parlant. Corrigez-moi si je me trompe, là. Mais c'est quand même assez intéressant de voir, surtout avec le méga game, à quel point c'est vraiment un jeu qui se base sur une hybridité de plusieurs types Clown de Bike. Jeux. Mais aussi qui forme un nouveau type de jeu en soi, malgré ouais. le fait que c'est hybride. Et aussi, tous les jeux viennent d'hybridité à la base. Donjons et Dragons, c'est un peut-être des wargames et de d'autres choses. Et ça s'est transformé au fur et à mesure que de nouveaux jeux ont été créés, que ce soit des jeux vidéo, des jeux de table, des jeux de société, des GN. Donc, c'est intéressant de repenser aussi l'histoire du jeu en général à partir de ces hybridités-là, parce que de toute façon, tous les jeux sont hybrides.
Mm-hmm. Ouais. Ouais, ben on aime oui. beaucoup mettre tout dans des boîtes, mettre des étiquettes. Ouais, hein? L'être humain est pensé pour faire ça, donc, mais alors que le réel est tellement
c'est un spectre de possibilités.
Oui, ouais. Puis au final, il y a des essais, puis il y a des ratés aussi. Là. Tu t'as nommé rapidement World of Yoho ouais. au début. C'est un essai de faire un jeu avec que ton pion, c'est ton téléphone. Je vais penser, par exemple, à c'est plus banal, là, mais dans Unlock, par exemple, ouais. t'as un jeu que t'es obligé d'avoir l'application mobile à côté, mais t'as son penchant, t'as Exit, qui est un ouais. peu un legacy, parce que tu brises des affaires dedans, c'est ça. Mais qui est un escape game en boîte aussi, mais qui a réglé le problème de l'application. Donc, il n'y a pas d'application, mais il y a une molette, il y a une roulette, que je trouve qui est un système qui fonctionne encore mieux qu'Unlock. Fait qu'il faut juste voir après ça comment ces jeux-là... Ben, premièrement, est-ce que c'est nécessaire dans ces jeux-là? Puis comment ils l'intègrent?
Est-ce que ça ajoute vraiment une plus-value?
Ouais, exactement. Puis à quel point ça en fait quelque chose, un objet unique puis une expérience unique, mm-hmm. tu sais.
On n'a même pas parlé des Escape the Room.
Oh my God, non.
Ouais, mais il y a tellement...
Ça, c'est une autre émission.
Ça aurait été Pop 176 Escape the Room.
Ben, moi, je veux être invité pour l'Escape Game. Là, moi.
C'est bon.
Mais je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire aussi sur les jeux où, justement, il faut être en coprésence. Il faut mettre en jeu notre corps pour pas faire encore des mauvais jeux de mots avec des jeux. Ça manque de synonymes. Mais il y aurait vraiment quelque chose à faire justement sur les dynamiques que ça apporte d'impliquer son corps dans justement toutes les activités ludiques. Mais là, l'émission est finie.
Outre la manipulation avec tes mains et tout ça.
Ben, ou bon, le oui. twister.
Ou le twister.
Ou le twister. Mm. Ou les autres jeux de rôle dont on voulait pas parler plus tôt. Ah, où le corps est vraiment mis en jeu.
Bon, ben, donc, on va se réinviter.
Sur ces... Ouais.
Il y en a un qui aime ça.
Alors, ce sera un à suivre. Oui. Et donc, je vais vous remercier. Merci Alex, merci Sylvain, merci Seb, merci Marc-Antoine d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci vraiment beaucoup pour vos interventions et merci aux auditeurs et auditrices à la maison. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pop en Stock.